Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau preview avant la Coupe du Monde 2022. Aujourd'hui, on s'intéresse au groupe D, au groupe de la France. Et pour m'accompagner, je suis avec le petit prince d'11e art, celui qu'on appelle en Italie du Nord il piccolino principe. Zach, comment ça va, Zach?
Ben écoute, ça va très bien. Merci pour cette petite présentation qui fait plaisir. C'est toujours sympa.
Ouais, c'est tout à fait normal. On rend à César ce qui lui appartient. On va s'intéresser du coup aujourd'hui exceptionnellement à seulement trois équipes du groupe parce que l'équipe de France fera l'objet d'un épisode spécial qui sortira normalement le 19, juste avant du coup le démarrage de cette Coupe du Monde. Donc la première équipe à laquelle on va s'intéresser, c'est le premier adversaire des Bleus et c'est l'Australie. C'est une sélection dont on connaît pas grand-chose. Enfin, pour ma part, je connais pas grand-chose de cette sélection. Ils étaient absents de la dernière Coupe du Monde. À part le gardien Mathew Ryan qui a fait les beaux jours de Brighton, je connais pas grand monde. Je sais pas, Zach, ce que t'en penses. Est-ce qu'ils peuvent créer la surprise? Est-ce que tu as des petites informations à ce sujet?
Bah, comme toi, quand je suis allé voir la liste, je connaissais pas grand monde. Comme t'as dit, il y avait Mathew Ryan qui a été à Brighton. Et il y a aussi Aaron Moy qui a évolué en première ligue du côté de Huddersfield et aussi de Brighton. Mais à part ça, dans la liste, pas de nom vraiment connu. Sinon, moi, je pense que ça va quand même être compliqué pour l'Australie de faire quelque chose. Bon, on l'entendra sûrement après avec notre invité, mais ça va jouer entre Australie, Tunisie pour la troisième, quatrième place. Les deux premières places du groupe sont destinées à la France et au Danemark.
Eh ben, écoute, tu m'as fait une belle passe décisive et je te propose qu'on retrouve notre GOAT, le boss Val, qui est parti voir Antoine Blanchet. Et qui a pu en savoir plus sur cette sélection australienne.
Là, je suis avec Antoine aujourd'hui. Antoine, est-ce que tu peux nous dire un petit peu dans quelle dynamique est l'Australie depuis la dernière fois qu'on les a rencontrés à la Coupe du Monde en 2018?
Alors, l'Australie, c'est assez, on va dire, endurant à parler parce qu'entre 2018 et donc là, on va jouer prochainement. Pour moi, ça s'est affaibli grandement. On va pas avoir une métamorphose du match d'entrée. Ça va globalement être la même chose. C'est-à-dire qu'à la tête de cette sélection, on a Graham Arnold, qui est un entraîneur qui est pas très connu en dehors des frontières du pays, mais c'est un gars qui a gagné une majorité de ses titres en Australie, au Sydney FC, au Central Coast Mariners, avec une façon de jouer qui est une bonne défense, bien défendre. Et surtout un attaquant un peu tourelle qui va reprendre des têtes, et ça va surtout jouer sur du coup de pied arrêté parce que malheureusement cette Australie là donc déjà le style de jeu est assez elle est pas passionnant, on va dire, même si ça reste un style de jeu comme un autre, mais le problème qu'il y a eu pour cette sélection australienne et que les gens ne savent pas sûrement pas, c'est que Graham Arnold a été lourdement impacté par le Covid, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs tours de qualification pour l'Australie, et il a dû faire un temps sans ses joueurs du championnat national, un temps sans des joueurs du championnat d'Europe, bah ceux qui jouent en Europe du moins, un temps pas ceux qui jouent en Asie, c'est-à-dire que par exemple Aaron Moy à un moment donné, donc là il joue au Celtic, mais avant il jouait en Chine, donc lui on l'a pas vu du tout, il y avait quelques joueurs qui étaient au Japon, comme Mitchell Langerhardt et Adam Taggart. Bon, bah, ils sont pas pris dans la liste finale, mais c'était des candidats à la liste. Et donc, du coup, bah, c'est aussi un problème pour lui, c'est que, bah, il a pas pu se dire, j'ai 11 joueurs, et après, je vais peut-être en mettre un parce qu'il a vraiment explosé, il va m'apporter un plus. Ça a vraiment été une équipe bricolage, et c'est aussi une équipe qui a toujours été forte contre les faibles, et faible contre les fortes. C'est un peu dommage, mais, pour la campagne de qualification, ça a été une énorme frustration parce que contre l'Arabie Saoudite et le Japon, bah, c'était revers sur revers. Et donc, du coup, on a dû passer. Je dis « on hein, » parce que bon, je fais partie du tout, je m'inclus. Hein, mais on a dû passer par un barrage intercontinental face au Pérou, gagné à l'arraché puisque ça s'est joué au tir au but décisif, quoi. Et donc voilà, donc on va se retrouver donc avec l'Australie qui va jouer sûrement en 4-5-1 ou en très défensif, une belle appui défensive, et qui va surtout jouer, qui va laisser le ballon parce que de toute façon il y a pas la ressource pour jouer du ballon. Et ça va attendre des coups de pied arrêtés sur, parce que voilà, il y a des bons joueurs de tête.
Par contre, à t'écouter parler, je ne suis pas très optimiste pour cette équipe australienne qui, visiblement, a quand même beaucoup de lacunes techniques. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour cette équipe qui tombe quand même dans un groupe assez fourni avec le Danemark qui est en pleine bourre en ce moment, bon, l'équipe de France qui est championne du monde en titre et une équipe de Tunisie, je pense, qui est tout à fait honorable. Est-ce qu'on peut espérer mieux qu'une que je ne sais même pas quoi? A priori, j'ai l'impression que c'est une équipe qui est quand même assez inférieure à t'écouter parler.
Oui, bah, c'est une équipe qui est inférieure parce que, bah, voilà, comme je l'ai expliqué avant, mais surtout, c'est que bah, l'idée, c'est même pas en fait, de sortir du groupe, c'est de gagner un match. Parce que si vous regardez l'historique de l'Australie, ils n'ont pas gagné un match depuis 12 ans en Coupe du Monde. Ça fait un peu beaucoup. Et mais l'idée, c'est de se dire que bah, on sort de 2018. Pour ceux qui se rappellent, ça a été deux buts sur penalty, les deux par Maïl Jedinak, qui était l'ancien capitaine qui a pris sa retraite depuis. Mais c'est essayer de se faire un petit peu de football, quoi, dans le sens essayer de marquer au moins un ou deux buts dans le cours du jeu, quoi, un peu de spectacle, quoi, pas essayer de faire la figuration et se faire sortir 4-0 par la France, 4-0 par le Danemark et 2-0 par la Tunisie, quoi. Quelque chose comme ça.
Je comprends. Du coup, on va évidemment parler un petit peu des acteurs de cette équipe australienne. On l'a fait un petit peu tout seul, tous les deux en amont de cette émission. J'avoue que je ne connais pas beaucoup de joueurs dans cette équipe. Il y a 2-3 petits noms à gauche à droite qu'on entend parler quand on suit de manière assez intense le foot européen. Mais qui sont les joueurs qui ressortent un peu de cet effectif?
En gros, pour expliquer ce côté-là, c'est normal que tu ne connaisses pas les joueurs australiens, c'est que il y a deux façons de voir. Soit le championnat national a un petit peu augmenté de niveau, ou soit les joueurs n'arrivent plus à choper des top clubs européens. Il y a les gens, quand on leur parle de l'Australie, il y en a beaucoup qui vont parler de Tim Cahill, ouais, qui a joué à Everton, on va voir du Kiwell, on va voir Maïl Jedinak, qui jouait à Crystal Palace, mais c'est un joueur qui était régulier en Première Ligue. Donc du coup, c'était des noms qui revenaient, c'était des joueurs qui étaient toujours là en sélection. Aujourd'hui, on n'a plus ces joueurs-là. Dans le top 5, on va dire sur les 5 grands championnats d'Europe, on a Ashdin Erstic qui va jouer au Hellas Vérone, il est à moitié blessé, il joue la relégation. Aouar Mabil qui joue à Cadix. Mais voilà, il n'y a pas de top joueurs. Il y aurait pu y avoir Denis Genro qui joue à Toulouse. Mais malheureusement, depuis la montée en Ligue 1, il ne joue plus du tout. Et il s'est fait doubler par Cameron Devlin, qui est un joueur du Hearts. Et c'est parce que cette année, il y a une très grosse communauté d'Australiens qui viennent du championnat écossais.
D'accord, ok.
Si je devais parler du 11 probable, des joueurs, des acteurs en eux-mêmes, il n'y a pas le joueur, on en parlait tous les deux avant, il n'y a pas le joueur où on se dit, oh, lui, ça peut aller, je ne sais pas, dans un club, on va dire, top 25 européen.
C'est pas, par exemple, comme les petites équipes sud-américaines qui ont toujours un ou deux joueurs qu'on connaît et qui peuvent faire une différence sur un contrôle, une frappe, je ne sais pas trop quoi. Là, il n'y a vraiment pas de joueurs un petit peu recensés au niveau international.
Sur le 11 titulaire, il n'y en a pas. C'est un 11 titulaire qui est davantage trentenaire, qui va avoir l'expérience... voilà, de la carrière. Mais à l'inverse, il y a beaucoup de, on va dire, les, comment dire, ceux sur le banc, en fait, c'est pour moi ceux qu'il faut regarder. J'ai quelques noms, mais je suis même pas sûr, en fait, qu'ils vont jouer peut-être même une minute de cette Coupe du Monde. Mais si on devait parler du joueur star de l'équipe, parce qu'il en manquait un, c'est-à-dire que quand Graham Arnold a fait sa liste, il a dit que voilà, ce qui lui manquait dans son équipe, c'était un joueur d'impact. C'est le type que tu peux lancer, qui va casser 2-3 lignes, qui va faire 2-3 dribbles, qui va arriver devant le gardien et qui peut marquer. Et ce type-là, il s'appelle Garang Kuol. Il a 18 ans, il n'a pas du tout fait une saison en professionnel, il a débuté qu'un match en tant que titulaire, mais il a fait le A-League All-Star l'année dernière contre le FC Barcelone, et il a été étincelant, le joueur impact magnifique. Il a été acheté par Newcastle United, donc en première ligue. Et il a été pris dans cette équipe nationale. Il a un peu le rôle de Daniel Arzani, pour ceux qui suivent, qui était le plus jeune joueur de la Coupe du Monde en 2018, qui était australien. Il a un peu le même style, parce que Daniel Arzani avait été acheté par Manchester City à l'époque. Donc on va lui souhaiter meilleure carrière, parce que depuis, Arzani a raté sa carrière européenne. Ouais, mais Garang Kuol, c'est le joueur contre le FC Barcelone. C'était incroyable de se dire que le type, il avait 17 ans à l'époque, là il a 18. Il est capable de faire ça alors qu'il a aucune référence professionnelle. Même moi, je peux même pas dire que je l'ai vu souvent, mais c'est un joueur parfait qui est le genre d'impact. Pour moi, c'est le joueur 3 étoiles qu'il faut regarder. Mais est-ce qu'il aura une minute de temps de jeu? Je sais pas. En vrai, je sais pas.
Ok. Écoute, on va quand même le suivre attentivement et on va espérer de le voir au moins rentrer sur quelques bribes de match, ou en tout cas pas contre la France visiblement, parce que c'est ça a l'air d'être un joueur assez intéressant.
Sinon, j'ai un autre. Attends, je vais juste placer un autre joueur qui s'appelle Harry Soutard, qui est défenseur, qui était. Alors, ça va faire rire, non, mais il était le meilleur buteur de la sélection en 10 sélections avec l'Australie avant sa rupture des ligaments croisés. Il avait claqué 6 buts, dont 2 doublés contre Chinese Taipei. Et je sais plus c'est quoi l'audition, parce qu'en fait il fait 2m01, il a 24 ans, il joue à Stoke City, et lui, alors je sais pas trop comment va être organisée la défense centrale, parce que entre qui a été appelé, mais en tout cas c'est un mec qui fait 2m01 et qui est hyper crucial dans le style de jeu, parce que quand il saute, il peut arriver à du 2m40. Donc quand on a joué des équipes asiatiques sur les premiers tours, en fait il claquait. On jouait tout sur lui parce qu'il faisait 2 têtes de plus. Donc, il a claqué 2 doublés en 2 matchs. Quoi.
Ça marche, très bien. Très bonne recommandation, ça a l'air assez marrant à avoir joué. J'ai une dernière question du coup, parce que visiblement, sans vouloir manquer de respect, évidemment, cette équipe d'Australie ne sera pas là pour jouer les premiers rôles. Comment c'est perçu en Australie justement? Est-ce qu'il y a une attente particulière? Quel est le rapport des Australiens au football? Et est-ce qu'il y a une attente particulière par rapport à cette Coupe du Monde?
Sur la première question, sur l'attente particulière, c'est beaucoup plus festif quand t'es une équipe comme l'Australie qui se qualifie à la Coupe du Monde. C'est une fête incroyable, XXL, parce que pour eux, c'est vraiment c'est pas comme des gros clubs, des grosses nations européennes. La qualification, c'est standard. C'est quand tu rates, oh là là, c'est incroyable. Mais eux, quand ils se qualifient, c'est un long parcours semé d'embûches, plus là cette année il y a eu ils ont pas joué à la maison pendant 2 ans, ils ont joué quasiment tout à l'extérieur, donc ça a été excellent, surtout que on en parle encore aujourd'hui du dernier match de qualification contre le Pérou. Mais c'est une fête, c'est une excellente fête, tout le monde l'attend. Après, moi je suis pas au pays, hein, donc j'habite en France, je peux pas dire comment ils en parlent par rapport au Qatar, mais c'est une des rares nations qui a pris la parole. Ça a été énormément relayé parce que eux là-bas ils sont vachement ouverts. Il y a récemment Jackson Irvine qui sera sûrement titulaire, qui joue au Sankt Pauli, qui a pris la parole sur les droits LGBT sur le site de la FIFA Pro. Donc s'ils seront pas forcément un gros acteur sur le terrain sportif, ils veulent être un des acteurs majeurs sur le terrain social, un peu comme le Danemark en Europe qui a un peu lancé tout ça. Donc tant mieux, et le pays pousse à ça. Après, dans la culture générale, le foot, c'est pas du tout le sport numéro 1, vraiment pas, plus chez les nanas que chez les garçons. Mais chez les garçons, ça pousse parce qu'en fait, la nouvelle génération, et là je cite le ministère des Sports, c'est le sport numéro 1, vraiment, c'est-à-dire que la prochaine génération, donc entre 2005 et là, ces garçons-là vont jouer que au football en fait, ils se mondialisent. De toute façon, il y a juste à regarder les campagnes de pré-saison. Tous les clubs de première ligue viennent en Australie parce que c'est un marché à avoir. Et le foot national se développe de plus en plus.
Très bien. Bon, écoute, on va suivre cette équipe australienne quoi qu'il arrive, parce qu'évidemment, elle est dans le groupe de la France. Et puis, on espère quand même qu'elle pourra évidemment se dépatouiller pour essayer de remporter un match dans cette compétition. Merci beaucoup, en tout cas, Antoine, d'avoir pris un peu de temps pour répondre à nos questions sur les Socceroos, comme on les appelle.
Merci pour l'invitation, Valentin.
On passe à l'équipe suivante. Je te propose qu'on parle du coup de la Tunisie. Tunisie qui était pour le coup, elle, au dernier mondial, et qui était tombée dans le groupe compliqué avec, il me semble, l'Angleterre et peut-être la Belgique, je crois, je sais plus, et qui avait fait service minimum en battant le Panama. Là, ils ont un peu déçu en dernière Coupe d'Afrique des Nations en se faisant éliminer par le Burkina en quart de finale. Zach, est-ce que tu as des tips à nous donner, au-delà évidemment de Wahbi Khazri et de ses frappes de 65 mètres qu'on connaît déjà?
Eh ben, déjà, je voulais juste dire que la Tunisie, c'est l'équipe qui vient un peu s'incruster dans ce groupe. Parce que hormis la Tunisie, on retombe sur le même groupe qu'en 2018 avec France, Danemark et Australie. Et par rapport à la Tunisie, on va retrouver beaucoup de joueurs de Ligue 1, comme tu as dit, Wahbi Khazri, mais il y a aussi Skiri qui a évolué du côté de Montpellier et qui est à Cologne maintenant, ou alors Kawi. Et sinon, pareil, pour la Tunisie, ça s'annonce compliqué. On pourra surveiller de près la pépite quand même, Hannibal Mejbri, qui est prêté par United. Mais sinon, pareil, ça va être surtout faire bonne figure. Une qualif, ça semble quand même difficile. Donc à voir, on ne sait jamais. Il y aura peut-être une surprise, mais à part ça, ce sera pareil que pour l'Australie.
Ouais, et on les attend un peu sur le côté beau jeu. Moi, j'avoue que c'est une équipe qui, quand elle veut... est capable de régaler balle au pied et j'avoue que face à des blocs plus denses comme l'Australie, j'aimerais bien voir ça. Du coup, même principe, je te propose que cette fois on retrouve Alex, ce fier Alex qui est entre deux parties de belote est parti voir Sofiane du site Étage qu'il a et qui a du coup analysé la probabilité de la Tunisie dans cette Coupe du Monde.
Salut les gars, merci beaucoup de nous rejoindre pour cette émission qui me tient particulièrement à cœur puisqu'on va parler de la Tunisie qui est un peu mon pays aussi. Je suis avec du coup Firas et Sofiane aujourd'hui. On voulait commencer, on a un peu l'habitude de commencer comme ça, par parler un peu du moral des troupes. Comment vous sentez le pays à l'approche de cette grosse compétition? C'est la deuxième Coupe du Monde de suite pour la Tunisie, la première c'était... pas très bien passé, mais en même temps dans une poule avec deux demi-finalistes. Qu'est-ce que vous pouvez me dire un peu sur la Tunisie à l'approche de la compète, là, le moral?
Sur le moral des troupes, on sort d'une qualification contre le Mali qui était très étriquée, mais qualification au bout quand même. Il y a eu une Coupe arabe récemment aussi qui a été une réussite, malgré la défaite en finale face à l'Algérie. La Tunisie a assumé son rang durant les qualifications. C'est une bonne chose de revoir la Tunisie deux fois de suite en Coupe du Monde. Nous qui suivons la sélection depuis X années, on a vécu ça par le passé et c'est de bon augure justement de revoir ça. Maintenant, aujourd'hui, il y a pas mal de points d'interrogation à se poser sur pas mal de choses qu'on va évoquer durant cette émission, durant ce podcast. Je pense qu'actuellement, les trois quarts de la liste sont prêtes. Enfin, trois quarts des joueurs qui vont être dans la liste sont quasiment connus. On vient, on va dire, sur un projet qui a été mis en place il y a 4 ans, avec une génération qui est justement un groupe de joueurs qui arrive à terme. Maintenant, la Tunisie joue beaucoup sur ce mondial, je pense. La Tunisie joue beaucoup sur ce mondial et... aura cœur de montrer l'étendue de son talent.
Bah Firas, ouais, justement, du coup, parlons un peu du groupe. C'est le groupe que tout le monde connaît, puisqu'il y a la France dedans, le Danemark et l'Australie. Firas, toi, comment tu vois les choses? Est-ce que la Tunisie peut tenir tête au Danemark ou à la France, pourquoi pas, et sortir du groupe?
Franchement, ça va être très compliqué de sortir du groupe, on ne va pas se mentir, parce que... on joue face au champion du monde en titre qui est la France et face à un Danemark qui est sur une pente ascendante incroyable. Et pour avoir analysé la liste du Danemark et leur avoir revu certains de leurs derniers matchs notamment, on se rend compte qu'ils sont sur une génération là, qui est en train de tout exploser, une des meilleures générations de leur histoire.
Ouais, ils font un super euro aussi.
Ouais, c'est ça en fait. Et quand on voit l'âge des joueurs, ils arrivent quasiment tous à leur maturité. Je n'ai pas envie d'utiliser les termes prime, mais ils arrivent tous au pic de leur carrière. Donc voilà, ça coïncide avec le fait qu'il tombe dans le même groupe que la Tunisie pour le mondial. Donc non, sortir du groupe, ça va être très compliqué. Maintenant, avec la Tunisie, comme je dis toujours, on n'est jamais sûr de rien. On est capable du meilleur comme du pire. Alors c'est une phrase toute faite, mais vraiment avec la Tunisie, elle prend tout son sens, puisqu'on est capable dans la même compétition d'éliminer le favori de la Coupe d'Afrique, donc qui était le Nigeria. L'année dernière,
En huitième, ouais, on se souvient. Ouais.
ou en huitième, ouais. Enfin la dernière CAN, pardon, et de perdre derrière contre le Burkina Faso de manière un peu pitoyable. Donc on est voilà, vraiment c'est les montagnes russes avec notre sélection.
Bah, allons-y, rentrons dans le vif du sujet. On en parlait hors antenne. La liste n'a pas encore été dévoilée. Il y a seulement une pré-liste de 16 joueurs qui ont commencé leur stage, vous me disiez, en début de semaine. Est-ce que Firas ou Sofiane, l'un des deux, comme vous voulez, vous pouvez me faire un peu la colonne vertébrale de cette équipe, les joueurs, en tout cas les cadres qui vont encadrer les jeunes dont vous vouliez parler?
Les cadres sont connus au sein de la sélection. Il y a donc au poste de gardien de but, malheureusement, on n'a pas de cadre vraiment. On a le retour de Ayman Masri, c'est Balboul, qui a 38 ans, qui est de retour donc au sein de la sélection, et qui c'est un retour qui fait beaucoup parler. Mais lui, c'était un cadre, c'était le capitaine de la sélection. Donc si on parle de cadre, lui, on peut le considérer comme cadre, même si on sait pertinemment qu'il sera pas dans les cages titulaires. Je sais même pas s'il sera deuxième ou troisième choix.
Cadre du
Ensuite,
vestiaire plus quoi.
cadre du vestiaire, ouais, exactement, exactement. Ensuite, bien sûr, il y a les cadres bien connus. Elias Skiri, au milieu de terrain. En défense, j'ai zappé la défense, pardon. En défense centrale, on avait Dylan Brown qui était un cadre, mais qui n'est pas dans la liste jusqu'à présent. Donc on a Dylan Brown, on a Mountassar Talbi, donc la jeune pépite qui joue FC Lorient, qui confirme cette saison tout le bien qu'on pensait de lui quand il était en Russie et qui devient aussi une pièce maîtresse de la sélection. Ensuite, comme je disais, il y a Skhiri et Laïdouni qui sont extrêmement importants au milieu de terrain.
Bah,
Et puis
Skiri, c'est
devant,
le métronome, c'est la valeur sûre de cette équipe, non? C'est
c'est
ça.
clairement la valeur sûre, ouais. C'est Skhiri, c'est. On a touché le gros lot avec un joueur pareil, faut pas se mentir. Il est un peu sous-évalué parce qu'il joue en Allemagne, parce qu'il est tunisien et parce qu'il va Montpellier, qui est pas non plus le club le plus médiatisé en France. Mais vraiment, d'un point de vue en termes de qualité, c'est un joueur exceptionnel et les supporters du FC Cologne, voilà, je pourrais échanger un peu avec eux. Je sais qu'à chaque mercato, ils ont un part qui part. Donc
Ouais,
ça, c'est une grosse part pour
il est
eux.
adoré là-bas. C'est un
Oh, il est extrêmement respecté.
profil d'un joueur qui a en plus 17 poumons, qui est jamais fatigué. Enfin,
C'est ça.
il fait vraiment plaisir
Et
à voir sur le terrain. Ouais.
c'est ça. Et puis il est dans la lignée des joueurs un peu. Nous, on a eu quelques milieux comme ça en Tunisie sur les 15 dernières années. C'est des profils très athlétiques, mais Skhiri, il est aussi très bon techniquement. Il se projette un peu plus vers l'avant. Et c'est vrai qu'il fait penser, alors pas dans le style, mais en tout cas dans le profil un peu, à des mecs comme Bouazizi, Benari, un peu Nafti, donc des mecs qui ratissaient beaucoup au milieu de terrain, qui avaient une capacité pour Benari notamment à se projeter vers l'avant. Et c'est vrai qu'on n'avait pas trop de joueurs de ce profil-là dernièrement, donc il fait énormément de bien à la sélection. Et bien sûr, devant, il y a Msekni et l'infatigable Wahbi Khazri, qui est pour moi le cadre de la sélection avec Skhiri, franchement. Voilà, après, je ne sais pas si ce soit avec moi en tête, mais.
Non, 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 sur l'ossature, on est bien d'accord. Bon, sur l'ossature, comme on a dit.
Bah, est-ce que tu peux nous parler des jeunes, du coup, des mecs qu'on attend pas forcément? Alors, on parle beaucoup de
Mejbri.
Hannibal. Comment?
Ouais, c'est ça, Mejbri.
Ouais, on parle beaucoup de Mejbri, c'est un peu le joueur qui est le plus attendu, la star. Enfin, qu'est-ce que vous pensez de ce joueur? Parce qu'on l'avait vu à la CAN assez décevant. Est-ce que déjà il a réussi à se canaliser un peu et à exploiter mieux son potentiel?
Alors, c'est très bonne question. Honnêtement, il est encore en phase d'apprentissage sur ce volet-là. On ne va pas se mentir. C'est un jeune joueur, il a 19 ans. Il ne faut pas l'oublier. On a tendance, il a eu une surmédiatisation depuis son plus jeune âge, depuis qu'il a 10 ans au PFC. Il faut remettre les choses dans son contexte. Il y a eu ce gros transfert aussi qui a été fait de Monaco à Manchester United. Aujourd'hui, il est prêté à Birmingham en Championship. Je crois que ça a été le meilleur des choix pour lui. honnêtement, dans un très bon club de Birmingham, qui a connu deux Tunisiens par le passé, donc Radi Jaidi et Mehdi Nafti, comme deux légendes du football tunisien. Pour moi, je pense que Manchester croit beaucoup en lui, dans le sens qu'ils l'ont poussé à justement privilégier la Championship, parce que c'est un championnat très sérieux, la Championship, très physique et qui permet aux jeunes de se faire les dents, comme on dit familièrement. Maintenant, je pense que pour moi, Hannibal Mejbri, il est dans le bon état d'esprit, dans le sens que malgré toute cette exagération qu'il a pu avoir au niveau de sa présentation, au niveau une surmédiatisation qui le suit toujours, il faut le dire, il a justement, pour moi, la tête sur les épaules. Il a fait des choix très intéressants et aujourd'hui, il est dans son process de développement. Il va disputer une Coupe du Monde avec la Tunisie, chose qui est très bonne pour un joueur de 19 ans. Et il fera des petites apparitions petit à petit.
Est-ce qu'il y a d'autres jeunes que vous voulez mettre en avant, qu'on connaît moins et que vous pensez qui pareil, ont une carte à jouer sur cette compète?
Moi, j'en ai un. Moi, j'en ai un que déjà lors de la CAN, malheureusement, il n'a pas été utilisé dans les bonnes conditions. Pour moi, c'est le milieu box-to-box de Brøndby, Enis Ben Sliman. Enis Ben Sliman qui va jouer parce qu'il est né au Danemark et d'origine tunisienne, donc c'est un binational qui va jouer face à un de ces pays. Ce sera un match important pour lui, ce sera un match particulier. Et justement, je pense que Enis Ben Sliman, lors de ce mondial, il a beaucoup à jouer parce que il a vraiment un talent assez monstrueux. Il a une belle frappe de balle, techniquement, il est très bon. Et honnêtement, il a vraiment un profil box-to-box qui pourrait vraiment s'épanouir en Angleterre et dans notre football d'aujourd'hui. Donc honnêtement, je pense qu'Enis Ben Sliman a beaucoup à jouer sur cette Coupe du Monde. C'est un joueur à scruter, c'est un joueur à suivre. Bon, je sais qu'en France, le championnat danois n'est pas le championnat le plus suivi. Mais s'il y a des gens qui peuvent, des curieux qui nous écoutent et qui veulent aller voir sur YouTube, allez checker les performances d'Enis Ben Sliman avec Brøndby.
Les scouts le connaissent bien, hein, les scouts, parce qu'il est, il était classé dans le top 20, je crois, des meilleurs moins de 20 ans des championnats européens, quelque chose comme ça. Je dis
Ouais.
peut-être une bêtise, le top, je ne sais plus c'était quel classement. Mais les scouts le connaissent très très bien.
Ouais,
Parce
vrai
que justement,
potentiel,
c'est un
quoi.
jeune à fort potentiel. Par contre, pour un autre jeune à fort potentiel, il y a aussi le jeune joueur de l'Espérance, Mohamed Ali Ben Ramdan, milieu de terrain. Qui a un profil psychologique très introverti, ce qui a le don de lui mettre quelques bâtons dans les roues, parce qu'au milieu de terrain, parce que c'est quelqu'un qui est imposant physiquement, il doit faire, je crois qu'il est pas loin du, je crois qu'il dépasse 1,85 m, il est très grand, il a une très bonne frappe de balle, très bonne technique, mais c'est vrai qu'il est un peu timide au sein du groupe et ça joue pas forcément en sa faveur.
Et du coup, maintenant, merci les gars. Franchement, c'est hyper complet. C'est vraiment cool de vous écouter. Maintenant qu'on sait tout ça, moi, je vais vous demander de vous mouiller un peu, chacun votre tour. Elle va faire quoi la Tunisie dans ce groupe?
Honnêtement, pour avoir vu les trois autres équipes plusieurs fois ces derniers mois, à moins d'un exploit lors du premier match, c'était qu'en 2018 aussi, Alex, hein, mais à moins d'un exploit au premier match, je ne vois pas la Tunisie passer le premier tour. Par contre, si la Tunisie réalise un exploit lors du premier match et qu'elle enchaîne derrière avec, on va dire que. Avec une belle concentration, avec ne pas s'enflammer face à l'Australie et jouer le jeu qu'elle joue, la Tunisie créera l'exploit et se qualifiera pour la première fois pour le deuxième tour. Mais je dis bien, parce que ça va être très écouté cette émission, mais si elle fait un exploit contre le Danemark, je précise, je précise.
C'est bien clair.
Ah. Et s'il n'y a pas d'exploit, ben, ce sera comme d'habitude au premier tour. Voilà.
Je tiens juste à préciser aussi, parce qu'il faut prendre d'énormes pincettes hein, quand on traite de ce sujet-là. Donc, on parle de pronostics et pas de souhaits. C'est pas
Ouais,
pareil.
là on est vraiment, c'est si
Voilà.
tu dois parier de l'argent, quoi. C'est pas ce
Voilà.
que tu veux, ouais.
Si on n'est pas impliqué émotionnellement,
Exactement.
Je ne vois pas, franchement, je ne vois pas la Tunisie passer. Parce qu'on est face à deux des meilleures équipes européennes, clairement. Et encore une fois, on snob un peu l'Australie parce que, parce qu'enfin, on donne l'impression de snobber l'Australie, mais c'est parce que c'est pas du tout notre souci. Aujourd'hui, face à l'Australie, voilà, on peut la regarder dans les yeux. Maintenant, France et Danemark, c'est clairement deux des meilleures nations européennes en ce moment. Donc, ce serait pas infamant de finir troisième ou quatrième. Tout dépendra du contenu du match.
Bah, merci beaucoup les gars, franchement c'était un super moment. Évidemment, on va regarder les matchs de la Tunisie attentivement. Moi, je sais que j'ai toute la famille sur le coup aussi là-bas, donc ils vont pas me rater évidemment s'il se passe quelque chose. Et en vrai, toujours beaucoup d'affection pour cette
Mais
équipe.
juste Alex, juste je me permets de te couper, excuse-moi, juste précisons pour un petit point culture foot. La Tunisie est la première équipe africaine à avoir gagné un match en Coupe du Monde en 1978 face au Mexique, 3 buts à 1. La Coupe du Monde était en Argentine. Et ça, il faut le dire, il faut le répéter
Une des
parce que
plus belles
pour nous,
générations du football.
voilà, pour nous, c'est une très grande fierté d'avoir fait ça, vraiment.
Bah, t'as bien raison et on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup les gars et bah, j'espère qu'on aura l'occasion de refaire un truc ensemble pour un autre format. On reste en contact. Merci beaucoup.
Ça marche.
Merci Alex.
Merci Alex.
Ok Zach, on se retrouve pour la dernière équipe du coup avec le Danemark. C'est probablement l'adversaire qu'on redoute le plus dans ce groupe côté français. On le rappelle, ils font demi-finale au dernier Euro et honnêtement, ça jouait vraiment, vraiment bien. En plus de ça a été l'équipe avec le capital sympathique qu'on connaît. Ils ont eu l'affaire Eriksen, on a cru qu'il nous quittait définitivement. Il est de retour aujourd'hui à la Coupe du Monde. En plus de ça, le sélectionneur a décidé de ne communiquer que 21 joueurs en expliquant qu'il y avait 5 places disponibles. Donc on voit qu'il y a certains absents. Moi, je pense à Youssouf Poulsen, qui est un attaquant qui se blesse beaucoup, mais que j'aime énormément du côté de Leipzig. Il y a aussi le défenseur Vestergaard qui avait fait les beaux jours de Southampton pendant plusieurs années, qui joue maintenant à Leicester. Zach, qu'est-ce que tu en penses du Danemark? Moi, je les vois même aller plus loin qu'un huitième de finale. Je t'écoute sur le sujet. Qu'est-ce que tu as à nous dire dessus?
Déjà à voir si le Danemark finira pas premier de la poule, parce que quand on voit qu'ils ont battu deux fois l'équipe de France en Ligue des Nations, on peut sérieusement se dire que la France est pas du tout sûre de gagner ce match et que la lutte pour la première place va être serrée. Le Danemark, quand on voit la liste des 21 qui ont déjà été convoqués, c'est quand même une belle équipe avec que des noms qui se sont imposés pour la plupart dans des clubs européens, des bons clubs européens même. Donc ouais, une équipe à surveiller qui en plus joue bien et qui peut pour moi, ouais, je pense, moi je les vois vraiment aller loin dans la compète. Limite si en fonction des tirages, s'ils ont un tirage clément, pourquoi pas un quart, voire une demi. Alors je m'emballe peut-être un peu, mais quand on voit que c'est une des rares
Je suis
sélections
assez
qui
d'accord.
propose un jeu comme celui d'un club, je me dis que ça peut aller loin, ouais.
Eh bien, écoute, l'avenir nous dira si on a raison. Et pour parler de toutes ces questions, évidemment, on a trouvé quelqu'un. Et c'est Alex, encore une fois, qui est parti à la rencontre de nos amis du compte Twitter Nodige Danemark FR, qui honnêtement font un travail vraiment vraiment cool. Je me permets de le dire parce que c'est un compte que je suis de temps à autre car ce football m'intéresse. Et du coup, je voulais les féliciter avant même ce petit entretien pour leur travail.
Salut Anthony, merci beaucoup de nous rejoindre pour cette émission qui sera dédiée au groupe D. Et donc, on va parler avec toi du Danemark. Le Danemark qu'on a quitté sur de très bons souvenirs avec un euro magnifique. C'était vraiment l'équipe chouchou du tournoi. Quel est le moral au Danemark et comment on aborde cette compétition?
Bonjour. Eh bien, oui, le moral, on va dire, est au beau fixe, puisque, comme tu l'as dit, l'Euro a été très, très réussi, puisque une place de demi-finaliste, c'était au-dessus, on va dire, de l'objectif prévu, qui était plutôt, on va dire, le quart de finale pour le Danemark. Souvent, c'est le quart de finale où le Danemark bloque. Là, ils ont réussi à aller en demi-finale et c'était pas loin non plus pour aller en finale. Donc là, le moral est vraiment beau fixe. L'entraîneur, enfin le sélectionneur qui est arrivé en 2020, Casper Hjulmand, a vraiment réussi à redonner un coup de neuf à la sélection qui, on va dire, stagnait un petit peu sur les dernières compétitions. Voilà, il a changé de système par rapport à au sélectionneur d'avant et il a vraiment trouvé une équipe type. C'est vraiment un groupe costaud, homogène et avec un bon état d'esprit. Et du coup, bah, ça a permis de faire un bon euro. Là, ils ont enchaîné avec une Ligue des Nations plutôt correcte puisque bon, ils seront devancés finalement par la Croatie, mais au final, ils sont arrivés bah, devant la France. Et donc, bah, ils préparent la Coupe du Monde de la meilleure des façons.
À quoi il faut s'attendre? Est-ce qu'on va retrouver un Danemark aussi séduisant, avec un jeu vraiment porté sur l'offensif? Est-ce qu'il y a eu, alors on les a vus un peu contre la France, comme tu disais, mais l'ossature n'a pas bougé. Qu'est-ce qu'on va retrouver contre la Tunisie?
On va partir toujours normalement sur le même système. Une défense à 3, un piston de chaque côté, deux milieux défensifs et après deux milieux excentrés sur les côtés et une pointe devant. Donc on devrait rester sur ça. Et voilà, il n'y a pas de gros absents, il n'y a pas de grosses blessures. Le seul absent notable pour l'instant dans la liste qu'on a l'habitude de voir et qui n'est pas dans la liste pour l'instant, c'est Poulsen, Youssouf Poulsen. Qui n'est pas dans la liste, mais je crois il me semble qu'il était blessé ou il revient de blessure, donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y est pas encore. Mais sinon, tous les principaux sont là, hein. Tous les principaux joueurs sont là. Donc on devrait avoir le même. Voilà, de toute façon, le sélectionneur ne va pas changer de. Il va pas changer de système. Alors, il peut changer de système, mais en tout cas de philosophie, je ne pense pas qu'il change. Ça sera toujours un 3, voilà, un 3-5-2 ou un 3. 2-2-2-1, ou alors un 4-3-3, si des fois il décide de passer à 4 derrière sur certains matchs peut-être plus importants ou des adversaires plus coriaces pour renforcer le milieu avec un milieu à 3. Mais en tout cas, la philosophie, ça va pas bouger. Parce que ça a réussi comme ça pour l'instant, donc il n'y a pas de raison de changer.
Bah carrément, on se souvient il y a beaucoup de joueurs qui nous ont marqués dans cette compète. Moi personnellement, c'est Meleux et Damsgaard que je garde vraiment en tête. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on s'attendait vraiment à ce qu'ils explosent en club après. Et finalement, j'ai envie de te dire, d'habitude, tu sais, on demande où en sont les joueurs dans leur club, comment ils évoluent. En fait, avec le Danemark, j'ai l'impression, et tu me contredis si je me trompe, j'ai l'impression qu'on n'a même pas besoin de se demander parce que tu sais que dès qu'ils enfilent le maillot, de toute façon, ils seront bons. Schmeichel, il a beau être pas bon avec Nice, il met le maillot, il est monstrueux. Damsgaard, il joue pas trop. Je crois qu'il est en Italie, si je dis pas de bêtises. Et pourtant, dès qu'il enfile le maillot, pareil, il est monstrueux. Meleux, on s'attendait à ce qu'il explose. Et finalement, c'est bon, c'est pas, il n'y a pas de condamnation. Hein, il y arrivera très certainement à l'avenir. Mais qu'est-ce que tu penses de tout ça?
Non, mais c'est vrai que c'est un peu ça. Ça quand, alors, en sélection, voilà, quand ils se retrouvent tous en sélection, là, le système est bien rodé. Je pense qu'ils savent tous ce qu'ils ont à faire. Ils ont chacun un rôle bien précis. Et du coup, c'est vrai que ça tourne bien. Après, en club, souvent les joueurs danois, alors, ils partent jeunes du Danemark. Enfin, voilà, souvent, les clubs viennent les chercher, comme Damsgaard, comme Skovolsen, comme Vind. Du coup, il y a un gap souvent à passer entre le championnat du Danemark, qui est quand même un championnat de deuxième niveau. Et tout de suite, ils sont propulsés dans des clubs assez importants, que ce soit l'Atalanta ou des choses comme ça. Et là, c'est vrai que le gap est un peu grand à passer. Soit ils reviennent au pays quelques saisons plus tard, ou ils redescendent d'un niveau. Là, ils passent beaucoup par le championnat belge en ce moment aussi. C'est une passerelle qui se fait beaucoup. À un moment donné, c'est encore les Pays-Bas. Hein. Le Pays-Bas, c'était vraiment un point de passage pour aller plus loin après en Espagne, en Italie. Et maintenant, c'est Pays-Bas et surtout Belgique en ce moment. Il y a beaucoup de transferts qui se font vers la Belgique. Donc, effectivement, ils ont un peu de mal à se trouver leur place dans les grands clubs. Après, c'est des jeunes joueurs, donc ça peut venir. Mais il y en a qui, souvent des joueurs plus âgés qui repassent par la case. Voilà, ils reviennent généralement à Copenhague pour jouer un petit peu parce qu'ils ont du mal, c'est vrai, à s'exporter. C'est-à-dire que
Ouais,
le joueur
puis.
danois, il se vend bien, mais après, il a peut-être du mal à s'acclimater à d'autres pôles.
En fait, ce qu'on retient, je trouve, avec la sélection danoise, c'est quand même qu'il y a une vraie philosophie, il y a une volonté d'exploiter 100% du potentiel de l'équipe. Est-ce que tu peux nous parler un peu du coach qui est un nom pas très ronflant, mais pourtant qui a réussi à créer une équipe qui est tellement plaisante à voir jouer. Enfin, vraiment, pendant l'Euro avec l'Italie, et moi je la mets au-dessus de l'Italie en termes de jeu, c'était la plus belle équipe à voir, quoi.
C'est vrai qu'il a une philosophie de jeu plutôt portée sur l'offensive. Et c'est vrai que c'était un vrai changement avec le sélectionneur d'avant, qui était quelqu'un de l'ancienne génération et qui était plus, voilà, sur une solide défense, ce qui est toujours le cas, puisque là, pendant les qualifs de la Coupe du Monde, ils ont pris que 3 buts seulement sur les 10 matchs de qualif. Bon, après, ils n'avaient pas un groupe de qualification très, très, très relevé, voilà. Donc, toujours une défense costaud, mais en exploitant un potentiel offensif avec, voilà, Damsgaard, Skovolsen, Dolberg, Skov, Robert Skov, Lindström, voilà, des joueurs offensifs qui ont beaucoup de talent.
Avec un Højbjerg au milieu de terrain qui régale aussi.
Voilà, je pense que Højbjerg, c'est pas le plus connu, même si en jouant à Tottenham, là, avec la Ligue des Champions. Et en plus, là, bon, il est dans le groupe de Marseille, donc en France, peut-être qu'on l'a un petit peu découvert.
Ouais, je te confirme,
Et,
je suis supporter de l'OM, je le connaissais, hein, mais je l'ai bien vu, quoi.
désolé. Non, mais voilà, c'est un joueur qui est un peu moins médiatisé, mais je pense que dans l'entrejeu, dans le cœur du jeu, c'est lui qui va être important, quoi. S'il sort des gros matchs, le Danemark va sortir des gros matchs. Et s'il est un peu plus moyen, je crois s'en ressortira aussi. Je pense que c'est vraiment la clé, une des clés en tout cas importante dans ce que va faire la sélection là, à la Coupe du Monde.
Et moi, j'allais te dire, il y a un autre gars à côté de lui, Delaney, qui est aussi un sacré régulateur au milieu et qui franchement, est assez jouissif à voir jouer, quoi.
Oui, alors Delaney, lui, par contre, en sélection, bon, voilà, comme un peu tous les autres joueurs, en sélection, il arrive toujours à plus ou moins se mettre au niveau, mais lui, il a un peu plus de mal en club, hein, il a changé pas mal de clubs en partant de Copenhague, maintenant il y a 3 ou 4 saisons, hein, il est passé par Dortmund, il est passé là, il a vite passé à Séville, mais je crois qu'à Séville, là, à la fin du mercato, je crois qu'il a même failli repartir. Pourquoi pas à Copenhague? Enfin, il était vraiment proche de partir de sa vie parce qu'il n'est pas du tout titulaire, il me semble, là-bas. Oui, effectivement, après, au milieu, c'est. De toute façon, s'il joue à 2 milieux, si c'est l'option, hein, avec trois défenseurs, deux pistons et deux milieux, les 2 milieux, ça sera sûrement Højbjerg et Delaney ou Højbjerg et Eriksen, parce qu'Eriksen peut jouer aussi un peu à ce niveau-là. Mais ça va jouer, voilà, ça sera ces trois-là, de toute façon. Enfin, ça jouera entre ces trois-là.
Ben justement, est-ce que tu peux un peu nous. Évidemment, c'est peut-être la grosse star de l'équipe, surtout avec l'histoire qu'il a traversée pendant l'Euro, Eriksen, qui revient à un très bon niveau et qui est de retour dans l'équipe. Comment est-ce qu'il a été bon, réadapté, on imagine. Enfin, ce mec pue le football, donc j'imagine qu'il s'est réadapté très vite à l'équipe. Mais qu'est-ce que son histoire a apporté au groupe?
Je pense que avec cette histoire, ça a renforcé encore plus le. Après, on peut pas savoir ce qui s'est passé ou ce qui serait passé. Mais peut-être que l'événement qu'il y a eu au premier match de l'Euro a découlé toute la suite de l'Euro. Parce qu'il y a eu voilà, une unité, vraiment une union, une communion entre tous les joueurs qui a fait que ils ont vécu quelque chose que, heureusement, enfin voilà. Personne ne connaît dans sa carrière ou très peu de monde. En plus, voilà, c'était un match super médiatisé. Voilà, donc, je pense que ça les a renforcés unis. Ça les a aussi appris à jouer sans Eriksen parce qu'avant, il y avait tendance à beaucoup se reposer sur lui, voire que sur lui. Tout passait sur lui et d'autres joueurs, du coup, ne faisaient peut-être moins d'efforts, si on peut dire ça. Et du coup, pendant tous les mois où il n'a pas été là, que ce soit sur la suite de l'Euro ou après les qualifs, ils ont joué sans lui, ils ont été obligés de jouer sans lui, pardon. Et voilà, en fait, maintenant, c'est un plus. C'est comme si c'était une nouvelle recrue pour un club. Il vient apporter voilà, tout son talent, que ce soit technique, sur les coups de pied arrêtés. Elle a mis un but récemment, je crois pendant la Ligue des Nations, un but assez exceptionnel. Tout son vécu, le fait d'être passé par des grands clubs, il apporte tout ça. Donc ça peut être que du plus par rapport à l'euro, au dernier euro.
Et du coup, ça débouche sur ma dernière question. Et là, il va falloir te mouiller un peu, Anthony. Est-ce que le Danemark va finir premier de son groupe?
Je pense, enfin, c'est vraiment ça. Alors, ça va pas jouer à grand chose. Voilà, le deuxième, là, en plus, le match contre la France, c'est le deuxième match. C'est vraiment je vais pas dire du 50-50 avec la France, mais il y a vraiment une grande chance qu'il termine premier. Ça va sûrement jouer sur les autres matchs d'ailleurs, peut-être à la différence de but, c'est possible qu'on ait la France et pourquoi pas le Danemark à 7 points. Et après, ça joue sur. C'est vraiment possible qu'ils terminent premier. Je pense que ce serait même mieux pour eux qu'ils terminent premier pour partir dans un tableau peut-être plus facile déjà dès les huitièmes de finale.
Ouais, c'est
Mais
clair.
oui, c'est de toute façon, je pense que dans les médias comme ça, ils placeront toujours la France, enfin, vu du Danemark, ils placent bien sûr la France. En position de favorite, mais ils voilà, sont très confus, ils sont plutôt confiants et moins d'un moins voilà, je pense qu'ils visent au moins le quart de finale quoi, moins d'un quart de finale, ça serait peut-être un échec.
Ok, bah écoute, j'ai envie de te dire qu'on découvrira ça contre la Tunisie au premier match. Je te remercie beaucoup, Anthony. C'était super sympa d'avoir pu échanger avec toi. Et
Merci.
bah écoute, franchement, je te le dis, hein, chez 11e art, le Danemark, ça a toujours été une équipe qui nous a fait vibrer. Donc on va les suivre avec une grande attention. En plus, ils sont dans le groupe de la France. Donc ce qui est bien, c'est que tout le
Oui,
monde
bah.
va pouvoir admirer cette équipe. Et j'invite tout le monde à te suivre, notamment sur ta page Superligaen F.
Oui,
Tu
c'est
me
le nom.
dis si je prononce bien. Je vais l'épeler. C'est Superligaen F. Majuscule à la fin. Et
Ou sinon,
voilà, si vous voulez
le
en
Danemark.
savoir plus sur cette équipe, foncez.
Merci. À bientôt.
Ok Zach, on se retrouve tous les deux pour la fin de cet épisode. On a eu le droit à des avis hyper intéressants grâce à nos spécialistes et j'en profite pour les remercier encore une fois pour leur disponibilité ainsi que nos envoyés de terrain qui feraient trembler n'importe quel journaliste d'LCI ou autre chaîne d'information en direct. Pour finir, Zach, est-ce que tu as un petit pronostic sur le classement de ce groupe? Et en deuxième question que je vais te poser, c'est est-ce que tu as un joueur sur les trois équipes dont on a parlé qui te paraît intéressant à surveiller tout particulièrement?
Eh ben écoute, pour le classement, si mon côté patriote aurait tendance à dire l'équipe de France en première place, moi je vois quand même plus le Danemark finir premier. Au vu de tout ce qu'ils ont proposé ces derniers mois, des confrontations avec la France, j'ai l'impression que c'est quand même une équipe qui se connaît et qui est assez solide. Et si je devais donner un joueur à suivre dans la poule, du coup je me tournerais quand même plutôt du côté du Danemark. Alors, un joueur comme ça, j'en ai pas vraiment qui me vient, mais je pourrais te parler de Pierre-Emile Højbjerg, qui, moi, m'impressionne du côté de Tottenham, ou alors du petit Damsgaard, quand même, qui est très performant, et on l'a notamment vu pendant l'Euro.
Très bien. Bah, écoute, j'avoue que sur le classement, hélas, je suis assez d'accord avec toi. J'ai peur que le Danemark nous pique la première place et en joueur à suivre, moi je suis désolé, je vais rester très classique et tous vous décevoir, mais je vais évidemment suivre le retour de Christian Eriksen. Je vous rappelle qu'en compétition officielle, on l'a quitté sur une civière avec le cœur qui s'était arrêté. Il est reparti depuis les tréfonds de la Première Ligue jusqu'à aujourd'hui être quasi indispensable dans une équipe qui joue le haut de tableau. Du coup, voilà, moi je vais me focaliser sur lui, même si c'est un peu mainstream, je vous l'accorde. Zach, merci beaucoup.
Bah écoute, merci à toi, ouais.
Et on se voit bien sûr très bientôt. Et de toute façon, 11e art continue ses previews dès demain avec la preview du groupe E.